France Culture.
Talmudique. Dès la naissance de la psychanalyse, le texte biblique fut un champ de recherche privilégié. On pense au Moïse de Freud et à cette phrase de son autobiographie datée de 1935, « Mon absorption précoce dans l'histoire biblique, presque aussitôt que j'appris l'art de la lecture, a eu, comme je le reconnis bien plus tard, un effet durable sur la direction de mon intérêt ». On pense aussi, par exemple, à l'étude sur le chauffard de Theodor Reich, qui a influencé Lacan, et de nombreuses autres études sur des épisodes précis, le mythe de la naissance d'Ève, Cain et Abel, le sacrifice d'Isaac, le thème de la loi en général, le péché, la transgression, la culpabilité, le désir, la rivalité fraternelle, la question de l'inceste et l'autorité paternelle, la souffrance et bien sûr la question de Dieu et de la religion. Mais rarement une étude ne s'est proposée de suivre pas à pas tous les textes de la Torah comme l'ont fait et le font encore les commentateurs traditionnels, chapitre après chapitre, sans rien omettre de leur articulation souvent complexe. C'est ce que nous offre le psychanalyste Daniel Siboni dans son plus récent ouvrage intitulé « La Torah », sous-titré « Une lecture laïque », nous invitant à comprendre que ce texte multimillénaire propose une pensée non seulement pour le croyant, mais aussi pour ceux pour qui Dieu et la religion ne sont pas une préoccupation. Daniel Siboni, bonjour.
Bonjour.
Daniel Siboni, vous êtes psychanalyste et philosophe, ainsi que mathématicien. On vous doit presque une cinquantaine d'ouvrages, dont déjà plusieurs consacrés à une lecture du texte biblique, mais c'est la première fois que vous en faites une si grande synthèse qui, comme je l'ai dit, couvre l'ensemble du texte de la Torah. Pourquoi ce choix, qui fait rencontrer la tradition et la modernité, par votre commentaire original, l'occasion de nous expliquer la structure même de l'ouvrage divisé, non en chapitres, mais en parachat, un mot qu'il est très important d'expliquer, Daniel Siboni.
Oui, parachat veut dire déploiement. En arabe, on le dit pour étaler un tapis, pour la couche, là où on fait son lit. C'est le même mot.
Comme en hébreu, l'ifros.
Voilà, déployer. Et en réalité, j'ai pas choisi. Mon but n'était pas de faire un commentaire exhaustif. D'ailleurs, il n'y a rien d'exhaustif dans ce livre. La moindre paracha que vous prenez, elle est non pas seulement insuffisante, mais elle laisse de côté toutes sortes de dentelles que les commentateurs aiment travailler. Mon but était beaucoup plus large, c'est-à-dire créer un espace de parole et de pensée où puissent cohabiter des religieux et des non-religieux. C'est-à-dire, non pas évidemment faire un texte purement rationaliste qui ramène tout à la raison et qui donc manquerait l'essentiel, à savoir les points d'irrationnel, qui sont aussi les points d'inspiration, qui sont aussi, je le montre vers la fin, ma définition du divin. Le divin, c'est l'ensemble de tous les points d'inspiration. Donc si on les zappe dès le début par une lecture purement rationaliste, c'est mauvais. Donc construire cet espace, c'est la moindre des choses, et ça n'a pas été fait. C'est-à-dire qu'on a des gens qui se sont bagarrés pendant des siècles. Les uns étaient les évolutionnistes, les autres les créationnistes. Et mon texte montre que c'est pas du tout contradictoire, qu'ils peuvent se fréquenter en lisant ce texte. Et on s'est aussi écharpé sur cette histoire de la femme créée par une côte de l'homme, et de dire c'est l'homme qui la domine, etc. Toutes sortes de bêtises qui, si on lit le texte ou si on lit ma lecture, la lecture que j'en donne, se dissipe et rendent la cohabitation possible.
On va en venir à tous ces thèmes, mais vous n'avez pas expliqué ce qu'est la paracha. Vous avez traduit le mot en disant que c'est un déploiement, un espace de parole, mais techniquement, on a besoin de savoir ce qu'est la paracha dans le texte de la Torah.
La paracha, c'est ce qu'on lit et rituellement chaque samedi à la synagogue et on en lit des extraits le lundi et le jeudi pour ne pas laisser passer 3 jours sans lire la Torah. Et cette division en paracha s'est un petit peu imposée parce que pendant plus de 20 ans, peut-être 25 ans, j'ai fait un petit commentaire de chaque paracha au mien, le vendredi soir. C'était très court, mais ça a fini par s'imposer. Et je me suis dit, si je parle seulement de certaines et pas d'autres, qu'est-ce qu'on va croire ? Donc on va tout prendre. Mmh. Et du coup, en retour, ça m'a servi, parce que ça a montré que le point de vue de l'être que j'ai essayé de construire, qui est mon approche du divin, fonctionne dans toutes les parachas, c'est-à-dire dans tout le texte. Et donc, j'ai été récompensé de m'être soumis à ce choix traditionnel.
Ce découpage selon la paracha, donc selon le texte qui est lu à la synagogue Shachabat, chaque paracha a un nom qui scande le temps. C'est la structure qui organise le temps, qui construit la conscience que nous avons du temps, qui nous permet de s'y repérer. Et cette idée que la conscience du temps dans laquelle nous nous repérons soit un texte de lecture est quelque chose de fortement original dans le judaïsme.
Bien sûr, et qui correspond à une expérience vraiment vécue. Ça veut dire que si c'est la paracha Miketz, l'atmosphère est empreinte du contenu de cette paracha. Des blagues qu'on fait sont rattachées à cette paracha. Si on approche d'une fête comme Pourim ou comme Hanouka, pour quelqu'un qui a vécu dans cet univers-là, son enfance et sa prime adolescence, la couleur de l'espace, c'est-à-dire le temps, a une texture complètement différente de ce qu'il a autrement. Si vous voulez, cette manière qu'a le mot d'être coloré par l'instant de son émergence est un potentiel poétique absolument irréductible.
Le mot Torah signifie en hébreu l'enseignement. Ce terme est souvent compris comme enseignement qui a trait à la sphère du religieux, car le texte qui porte ce nom de Torah est le cœur de la liturgie du judaïsme et du christianisme sous le nom d'Ancien Testament. C'est pourtant un enseignement pour tous, juifs et non-juifs, pour ceux qui pratiquent et ceux qui sont loin de la pratique, pour les croyants et les athées, vous l'avez dit. Et cet enseignement, pour tous, vous l'appelez laïque. En quel sens c'est laïque ?
Vous savez que laïque, laïcité, est devenu un essaim d'abeilles, tellement il y a des enjeux de pouvoir, etc. Moi, je l'ai pris au sens le plus simple, qui est d'ailleurs au croisement du sens français et du sens anglais. C'est simplement libre de toute emprise religieuse, mais respectant l'existence des religions. Je dis bien l'existence, pas forcément les contenus religieux. Si une religion dit du mal des autres, par exemple, il convient que l'arbitre, qui serait l'État, vienne y mettre le holà. Donc, coexistence des religions et respect de leur existence et de leur coexistence, mais ouverture d'un espace dans lequel c'est avec le texte, la pensée et ce potentiel symbolique qui fonctionne comme l'être dans le texte. N'oublions pas que le mot qui désigne le divin, le Dieu biblique, le tétragramme, comporte Havaya, qui veut dire l'être. Autrement dit, c'est
l'existence.
L'être, c'est pas l'existence, c'est l'être. C'est ce qui fait exister ce qui existe. Donc, c'est un cran au-dessus. Et donc, en déployant ce point de vue, je vois que n'importe qui peut entrer. Si on prend la création du monde, enfin, le travail qu'ont fait ces scribes pour à la fois tenir compte du fait que le monde, il a plusieurs milliards d'années, et qu'en même temps, eux veulent marquer un commencement. Et ils utilisent le mot commencement comme un potentiel symbolique pour dire que la création s'est faite avec le commencement, c'est-à-dire avec l'idée de commencement. Ce qui concorde avec l'expérience individuelle de chacun. Vous commencez à être créatif quand vous commencez. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à commencer. Souvent d'ailleurs, névrotiquement, parce qu'ils voudraient avoir déjà commencé et que ce soit parfait. Et même le Dieu de la Genèse, il a vu que c'était pas parfait ce qu'il avait fait. Et donc, il y a l'idée qu'il faut recommencer, effacer, recommencer, etc. Eh bien, si on met en place ces choses-là, évidemment, le quidam peut entrer. Et ceux qui ont une phobie bien compréhensible de la dimension religieuse, parce qu'il y a une vraie phobie de ça, en tout cas, j'ai fait tout un travail, un effort, pour qu'ils n'aient pas peur, pour qu'ils voient que le texte ne mord pas, ne va pas les piéger, les mener là où ils veulent pas aller, pas du tout. C'est le voyage tranquille et qui met quand même le sujet devant des points singuliers qui, il en faut, une texture ou une vie dans laquelle il n'y a pas des explosions de singularité, c'est la platitude mortelle.
Vous avez employé plusieurs fois l'expression de potentiel symbolique et qui revient de très très nombreuses fois dans votre livre. Qu'est-ce que c'est que le potentiel symbolique dans votre langage de psychanalyste ?
Ben, si vous voulez, le potentiel symbolique, c'est la possibilité pour un sujet de transmettre une loi symbolique à ses enfants, à la génération suivante. Et il ne va pas leur dire « moi, je pense que ». Il transmet une espèce de bénédiction, d'acquiescement, de consentement, de capacité de commencer. Donc, il y a beaucoup de gens, la névrose, c'est ça, c'est des gens arrêtés, même dans l'usage de leur sexe, inhibés, parce qu'ils n'ont pas eu une parole ou un geste qui leur transmette symboliquement un brin de possible, c'est-à-dire un brin de rapport à l'être, puisque je dis quelquefois que l'être, c'est l'infini des possibles.
Donnez-nous un exemple de cette transmission
c'est
symbolique.
Si vous voulez, la Torah, elle a fait un travail gigantesque là-dessus, parce que tout le livre l'illustre. Mais si vous commencez par Abraham, il entend qu'il lui est dit « Sors de ta cabane, sors de tes origines, va-t'en, etc. Pars pour toi, tout ce qu'on sait, et tu seras béni. » Et on cherche fébrilement dans les pages, c'est quoi cette bénédiction ? Et on la trouve pas. Tout simplement parce que elle est posée comme potentiel symbolique. Ça veut dire que quoi que tu fasses, si ça transite par cette promesse, c'est promis à être fécond. Et tu seras un grand peuple, etc. Ce qui veut dire, tu vas produire des choses vivantes. En arabe, on dit la baraka, en hébreu, la beracha, en argot, on dit la gagne. Donc, il y a toutes sortes de variantes qui indiquent qu'il y a une transmission du plus vivant de la vie du sujet. Et ça, c'est une transmission du divin si on identifie approximativement le divin et la vie. Ce qui n'est pas une mauvaise approximation si on ajoute à la vie tous les liens symboliques qui s'y produisent. Par exemple, les liens de l'amour entre un couple, les liens d'amour qui font d'un groupe, qui font d'un peuple,
une famille,
qui font d'une transmission, etc. Voilà une figure du divin. J'en donne évidemment des approches plus rigoureuses dans le livre.
Vous dites, en citant le verset 18 du chapitre 3 de l'Ecclésiaste, « La Torah est un arbre de vie, Etzraïm, l'arbre de vie, Lamachazikimba, pour ceux qui la tiennent, ce que vous expliquez en disant que la Torah pousse les hommes à transmettre plus d'esprit à partir de leurs questions. Que signifie ce plus d'esprit ? Ça m'a interpellé.
Mais oui, vous avez raison. Et d'abord que la Torah soit un arbre, c'est ce que dit le texte, mais disons, nous, une arborescence. C'est-à-dire une arborescence infinie, qui commence à une origine qu'on a posée symboliquement. Ce qu'ont fait les scribes, c'est de dire, à partir de maintenant, ça va compter autrement. Et avant, il y a eu 6 vagues créatives qui ont peut-être duré des millions d'années. Donc, c'est un arbre, et ça consonne avec l'arbre de vie, c'est un arbre de vie auquel s'ajoute chaque fois un plus de vie. Vous savez ce que c'est un plus de vie ? Tout le monde le sait. Ça veut dire un enfant qui naît comme ça, qui va amener toute une histoire, une temporalité nouvelle. Eh bien, si on pense que ce plus de vie a de l'esprit, c'est-à-dire à quelque chose de spirituel, puisé dans ce qui fait de lui un humain, mais ce qui le pousse aussi à ne pas être identique à lui-même. Le mieux, à la limite, quand on n'a pas ce plus d'esprit, c'est de raconter une blague, c'est-à-dire un mot d'esprit, pour dire « il y a des gens qui ont eu un plus d'esprit pour produire ça ». Mais chacun est confronté à un discours, le sien ou celui d'autre, où il cherche ce plus qui indique qu'il y a eu un contact avec l'inspiration. Et on revient au divin comme l'ensemble des points d'inspiration.
Oui, parce que c'est une question importante. Qu'est-ce que, même si vous venez de le dire plusieurs fois, qu'est-ce que la personne laïque, entre guillemets, ou non croyante ou non préoccupée par le religieux ou la religion, peut entendre comme divin ? Alors vous avez dit, c'est l'être, on a compris, ce qui permet de transmettre le vivant. Mais comment il le lit dans le texte à chaque fois ? Si je dis par exemple, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre, comment vous entendez ce Dieu ?
Voilà, c'est très bien que vous posiez la question maintenant. C'est que le verbe être, c'est une fonction d'être en réalité. C'est-à-dire qu'il peut lire avec l'idée de commencement, s'est produite. S'est construite la terre et le ciel, c'est-à-dire s'est construite une séparation de la terre et du ciel. Autrement dit, s'est construite l'idée de terre. Donc, l'idée de la terre sur laquelle tu es, eh bien, elle a émergé pour nous avec l'idée de commencement. Et là, ça devient presque une banalité. Ça veut dire, ça n'a pas été de tout temps. Il y a un moment où la terre a commencé d'exister. Et nous, les scribes, nous rattachons ce commencement à l'histoire qu'on va vous raconter.
Alors ça, c'est un commencement où il n'y a pas encore d'homme. Mais dans le texte de la Torah, de manière générale, la parole divine s'adresse à des hommes, en général à Moïse, dans la formule « Vaidaber Adonai El Moshe Lemor » par exemple, Dieu s'est adressé à Moïse en disant, dans ce cas de figure, comment comprendre le terme de divin, le tétragramme qui s'adresse à Moïse par exemple,
par
Daniel Siboni.
Par les points d'inspiration que je vous ai dit. Vous pensez bien que cette phrase m'a fasciné depuis toujours. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si on exclut un dieu personnel, barbu ou non, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, avec l'idée des points d'inspiration, il a été inspiré à Moïse de dire ceci. Ça veut dire que Moïse était tellement branché sur l'être en tant que possiblement parlant. L'être à parler à Moïse. Même n'importe qui écoute un texte ou voit un tableau et dit « ça me parle ». « Ça t'a parlé ?»« Oui, ça lui a parlé », etc. Ça veut dire quoi ?
Ça l'inspire.
Ça veut dire que ça, voilà, ça l'inspire, c'est-à-dire que ça l'amène à dépasser ce qu'il voit pour se raccrocher. Ce qui est dommage, c'est que devant un tableau, les gens se raccrochent à l'histoire des critiques de ce tableau, alors qu'ils pourraient plonger dans le tableau et voir des merveilles que d'autres n'ont pas vues. Donc, amener un peu plus d'esprit. Et donc, cette phrase-là, « Weidaber Adonai Moshe les morts » devient limpide. Et ce qui est passionnant, c'est qu'il y a des moments du récit, par exemple, après le veau d'or, quand Moïse pratiquement se fait donner rendez-vous avec son divin du côté du trou d'un rocher, et il y a une phrase très belle qui est d'ailleurs répétée dans la liturgie, tellement les gens ont bien perçu qu'elle contenait un brin du mystère, parce que dans cette phrase et celle qui l'entoure, on sent que la parole de Moïse et celle qu'il se fait dire par sa source d'inspiration, c'est les mêmes. Ça veut dire qu'il y a une telle proximité qu'à ce moment-là, on pourrait dire Moïse fait parler sa source d'inspiration, fait parler Dieu. Et on ne sait pas d'ailleurs qui a dit cette phrase. On pourrait dire c'est le divin qui l'a dit ou c'est Moïse. Mmh. Parce que le divin parle aussi de lui-même à la troisième personne. Souvenez-vous de cette scène des anges, soi-disant anges, avec Abraham, et l'un d'eux s'appelle Adonai. Donc, la fonction d'être se balade. Et souvenez-vous du rêve de Jacob, il se réveille et dit « Achen, yesh Adonai bamakom hazeh ». Ainsi, il y a Dieu, on traduit par Dieu, ce qui est idiot. Ainsi, il y a l'être. L'être marque sa présence, puisque présence, le mot présence se rattache à l'être. Donc, il y a une activité de l'être dans ce lieu. Et c'est logique avec ce que je raconte, puisque l'activité de l'être se traduit aussi dans les rêves.
Mozart, petite musique de nuit, ici dirigée par Neville Mariner. C'est votre choix, Daniel Simoni. Pourquoi cette petite musique de nuit, cette musique de Mozart ?
Elle m'a impressionné quand je suis venu en France et que je l'ai écoutée la première fois par son côté spirituel. Et le but de mon travail, c'est de donner la possibilité du spirituel à des gens qui fuient devant ce mot parce qu'ils croient que ça amène vers le spiritisme ou la confusion, etc. Alors que c'est vraiment le plus d'esprit. Et je trouve que cette musique, elle illustre la mélodie et puis les surgissements qui se passent au-dessus, qui sont des saillies spirituelles.
Ce qu'on trouve très souvent chez Mozart,
évidemment,
de manière générale, où on sent en l'écoutant l'inspiration et comme s'il nous transmettait à notre tour cette inspiration, c'est-à-dire qu'en écoutant Mozart, tout à coup, on a envie de devenir créateur à notre tour.
Voilà.
Alors, dans votre enfance, à Marrakech, dans le Maroc des années 50, Vous avez appris à lire ces textes que vous commentez aujourd'hui différemment, portés par tout le savoir et le travail clinique de la psychanalyse, par la parole de vos patients aussi, par vos lectures toujours renouvelées de la littérature et de la philosophie. Je rappelle que vous avez écrit une somme sur Shakespeare, absolument passionnante. On vous avait reçu à cette occasion. Racontez-nous, Daniel Sebony, cette partie de votre enfance, vos premiers pas dans la lecture de ces textes bibliques, les maîtres que vous avez eus, les langues qui furent les vôtres, et ce que vous avez retenu de cette éducation biblique première, et comment elle vous a conduit presque naturellement à la psychanalyse.
Moi, j'ai baigné dans ce texte avant d'apprendre le français. Et j'ai pu entrer dans l'école à Marrakech grâce au fait que je savais lire. Parce que le directeur m'a examiné la dentition, comme pour les chevaux. Et il a dit, trop jeune, il n'entre pas. Et ma mère lui a dit, il sait lire. Alors il a pris une Torah, il l'a ouverte, j'ai commencé à la lire très vite et j'ai commencé à la traduire. En quoi ? En arabe, puisque c'était ma seule langue. Et je l'ai vu rougir, parce qu'il n'était pas censé comprendre l'arabe. Donc il a dit, il entre. Alors après, j'ai toujours été avec ce texte, ce qui ne veut pas dire que je l'étudiais, ça veut dire que je l'ai absorbé comme un paquet de signifiants matériels qui fait que je ne suis jamais à court de texte. Et que si je veux écrire sur n'importe quoi qui m'inspire, alors j'ai des petits branchements qui travaillent tout seuls.
Vous avez aussi, à l'âge de 13 ans, fait votre bar mitzvah. Et je suis toujours sensible au texte qui est lu par le bar mitzvah ou la bat mitzvah, le texte que l'enfant adolescent qui rentre dans le groupe des adultes, je me suis demandé quel était votre paracha, Daniel Sebony, parce que j'ai toujours été sensible, par exemple, que Kafka en parle deux fois en des passages essentiels, qui sont des portes aussi essentielles pour entrer dans son œuvre, et peut-être que votre paracha est essentiel pour entrer dans votre œuvre.
Alors, je vais vous surprendre. Je n'ai pas fait de bar mitzvah, parce qu'on était sur le départ au Maroc et en France sur l'arrivée. Et entre ces deux petits chaos, il n'y a pas eu le temps. Mais comme j'étais dans une école juive, école maïmonide, ils m'ont dit, tu as fait ta bar mitzvah? J'ai dit, oui. Donc ils m'ont fait lire la Torah. Je lisais souvent la Torah. Donc la paracha de ma bar mitzvah,
c'est toute la Torah.
C'est toutes les parachas.
Ah, ce qui explique ce livre.
Peut-être.
Donc, certainement. Alors, cette éducation biblique de votre enfance, vous l'avez fait mûrir par une démarche personnelle et une herméneutique inspirée de vos diverses formations. En dehors du terme laïque, comment définiriez-vous votre projet et votre méthode, Daniel Sebony ?
Mon projet, je vous l'ai dit, c'est construire un cadre où peuvent cohabiter des discours qui fixent les points d'inspiration dans une croyance et les discours qui laissent ces points d'inspiration ouverts sur, disons, l'amour. Pour moi, l'hypothèse du peuple juif, c'est « il y a pour nous de l'amour dans l'être ». Et deuxième alinéa, on aura beaucoup d'ennuis pour ça. Donc, cette quête des points d'amour, la Torah la déploie. Et donc, ouvrir un espace, donner un cadre pour que ces deux discours puissent cohabiter, même s'ils s'ignorent, peu importe, c'est le but. La méthode, je ne vais pas la dire, parce que si elle est répétée, elle risque d'être mal répétée. Donc la méthode, chacun peut la suivre et voir qu'elle n'est pas purement déductive, mais qu'elle est très rationnelle et qu'elle laisse la place à tous ces points d'inspiration, donc au contact possible avec ce que j'appelle le divin.
Alors, vous avez beaucoup travaillé la Bible, mais vous avez aussi beaucoup travaillé la littérature. Je parlais de Shakespeare tout à l'heure. Quelle différence vous faites entre votre approche de ce texte très particulier qu'est la Torah et le texte des grandes œuvres, comme Shakespeare, par exemple?
Eh bien, c'est très proche, sauf que Shakespeare, il incarne dans des personnages ou dans des situations ce que j'appelle les points d'inspiration ou les points d'amour. D'ailleurs, vous prenez une comédie ou une tragédie, il repère les points d'amour sur lesquels le personnage va exploser dans les tragédies ou va projeter de l'amour dans les comédies, et il voit ce que ça donne. Et moi, je vois, d'après ce que raconte le texte, ce que deviennent ces points d'amour. Donc, les personnages et les scènes sont comprises dans le texte que j'aborde, tandis que Shakespeare les détache pour en faire une petite histoire. Ce qu'ont fait aussi les rabbins, ils ont pris des petits morceaux et ils en ont fait des midrashes, c'est-à-dire des petites recherches, mais qui sont en général des histoires, hélas, pas aussi spirituelles que Shakespeare, parce qu'elles avaient besoin d'être édifiantes. Et pour faire de la littérature, il ne faut surtout pas être édifiant.
Merci Daniel Siboni pour cette très belle conversation. Je rappelle le titre de l'ouvrage dont nous venons de parler, La Torah, une lecture laïque. C'est aux éditions Odile Jacob. Daniel Siboni, encore merci pour ce très beau livre compagnon.
Merci, cher Marc Alain.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Anthony Thomasson, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.